Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous sûr que Dieu est bon? Êtes-vous sûr qu'il répond à vos prières? Êtes-vous sûr que Dieu est bon? Êtes-vous sûr qu'il répond à vos prières? Êtes-vous convaincu qu'il veut que vous soyez sauvés? Mais tout d'abord, que signifie être sauvé? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent être déjà sauvés. Mais le Christ a dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qu'ils seront sauvés. En conséquence, la bonté divine ne peut être mesurée qu'à notre patience et persévérance. Cette condition est nécessaire. Autrement dit, si nous ne persévérons pas, jusqu'à la fin, nous ne serons pas sauvés. Alors, au cours de mon ministère, voyez-vous, lorsque je parle aux gens du salut et de la bonté de Dieu, les gens disent, mais écoutez, Dieu n'est pas amour, il fait exception de personne. Je remarque que souvent les gens ont des préjugés en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne même la religion. Une chose est certaine, pourquoi les gens doutent-ils de Dieu? Laissez-moi d'abord vous dire que si vous avez des questions au sujet de Dieu, la réponse se trouve toujours dans la Bible. Autrement dit, laissez-moi vous poser quelques questions. Êtes-vous sûr que Dieu vous comprend? Êtes-vous sûr que vous comprenez Dieu? Que devrait-il faire, ce Dieu majestueux, pour vous personnellement, pour que vous puissiez vraiment être convaincu de sa parole? Ce sont des questions importantes. Je me rappelle l'histoire d'un homme qui voulait prouver que Dieu n'existait pas. « Vous êtes mes témoins, disait-il aux gens. Je fais appel à Dieu devant tous ou tous. S'il existe vraiment, qu'il me tue sur place à l'instant. » Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu n'a pas réagi. Et cet homme a conclu, « Voyez-vous, Dieu n'a pas agi parce que Dieu n'existe pas. Voilà, maintenant vous avez la preuve. Vous avez la preuve conclusive. Dieu n'existe pas. » En réalité, cet homme était un fou parce que lui-même a eu un raisonnement qui n'est pas le raisonnement de Dieu. Dieu ne raisonne pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne met pas à notre vie parce que nous sommes fous. Cet homme était un fou. C'est un raisonnement stupide qu'il avait. Une folie. Non seulement cet homme, par ses arguments, n'a pas prouvé que Dieu n'existe pas, mais au contraire, il a affirmé que Dieu existe, parce que Dieu n'a pas agi comme lui, comme un fou. Dieu n'a pas agi comme lui, comme quelqu'un qui n'a pas de raisonnement. Dieu n'a pas agi comme lui, quelqu'un qui tue les gens pour rien. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui comprend nos problèmes, qui veut nous pardonner, mais ce Dieu suprême veut que nous puissions changer, changer complètement de ce que nous sommes, de ce que nous serons. Dieu ne juge pas comme nous autres. Comprenez-vous ceci? Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Il a permis au Christ de mourir pour nous. Il veut que nous puissions tous comprendre son amour pour nous, sa bonté pour nous, son plan sur cette terre pour toute l'humanité. Voilà pourquoi il n'a pas agi comme cet homme incroyant demandait. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Le fait est que la plupart du temps, les hommes raisonnent comme cet homme. C'est parce que le véritable Dieu est plein d'amour pour nous tous, parce qu'il nous pardonne nos péchés. C'est pourquoi il n'a pas réagi de la façon dont cet homme s'attendait. Lorsque nous avons des épreuves, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous cherchons à jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, souvent même sur Dieu. Nous avons mal agi, nous agissons mal, nous blâmons quelqu'un d'autre. Quelque chose nous arrive, nous blâmons quelqu'un d'autre. Une chose est certaine, mes amis, les raisonnements humains, dans de tels cas, sont toujours faux, toujours mauvais. Ils sont sans fondement. Les prophètes de Dieu, à travers les siècles, nous ont montré comment Dieu agit, comment il raisonne, comment il nous traite, malgré nos sentiments de vanité et de folie. À titre d'exemple, le prophète Ésaïe écrit dans son livre, je cite, Ésaïe 64, verset 5, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Par contre, lisez les déclarations divines dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, concernant l'opinion de Dieu sur la façon humaine de raisonner ou bien d'agir. Par exemple, pourquoi avons-nous sans cesse des guerres sur cette terre? Dieu répond, parce que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi souffrons-nous? Dieu répond, parce que chacun agit selon son propre cœur. Pourquoi sommes-nous tous égarés de la véritable joie? Dieu répond, parce que chacun se dirige à sa façon, au lieu de suivre la voie que Dieu a tracée devant nous tous. Lisez Romains 3. Lisez-le sérieusement. Lisez ces versets, les yeux ouverts, sans préjugés, sans tordre leur signification. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, la vérité est que Dieu est toujours bon, toujours juste, et que les changements nécessaires dans notre vie doivent être entrepris de notre côté. La plupart du temps, les gens sont bouleversés d'apprendre que nous autres humains, nous sommes déséquilibrés jusqu'au moment où nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais c'est la vérité. En effet, l'esprit humain, l'esprit charnel, s'oppose à la voie divine. L'esprit charnel ne comprend pas ce qu'est la véritable justice. L'esprit charnel a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour pouvoir comprendre la différence entre ce qu'est le raisonnement humain et ce qu'est le raisonnement de Dieu. Nous voyons autour de nous injustice, là où Dieu voit justice. Nous voyons des préjugés lorsque Dieu nous dit clairement que nos souffrances résultent de la désobéissance à ses lois. C'est une question de cause à effet, voyez-vous. Vous transgressez une loi, vous en souffrez des conséquences, et les conséquences sont graves. C'est aussi simple que cela. Toutefois, à travers son existence, l'humanité s'est laissée conduire par l'égoïsme. Elle s'est dirigée par des sentiments charnels, parce qu'elle n'a pas eu, du moins jusqu'à l'avènement du Christ, l'accès à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire au Saint-Esprit, à part quelques exceptions près. Si vous ne connaissez pas le but de la vie, vous ne connaîtrez pas la raison des souffrances humaines. Si vous pensez que Dieu est injuste en accordant ses bénédictions à certains et pas à vous, mettons, eh bien, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas de guide en ce bon monde. Dieu a un dessein sur cette terre. Il aime tous les êtres humains, y compris les criminels. Eh oui, savez-vous pourquoi? Parce que aucun homme n'est né criminel. Non, on ne naît pas criminel, on le devient. Lisez attentivement ce que l'apôtre Jean a écrit dans son évangile, et je cite Jean chapitre 3, versets 15 à 16, « Afin que quiconque qui croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, notez-le, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire le Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenez-vous cela? Et Dieu ajoute, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde parce qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par le Fils. Celui qui ne croit pas en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et au verset 19, nous lisons, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est-à-dire le Christ, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. » Écoutez, c'est aussi simple que cela. Ce sont des phrases faciles. Ce sont des enseignements faciles à comprendre. Le véritable christianisme n'est pas une religion de sentimentalité. Non. C'est une religion d'après laquelle vous vous laissez guider par les enseignements de Dieu. Certes, vous lui demandez ce dont vous avez besoin, mais avant de demander ce dont vous avez besoin, soyez sûr que vous connaissez sa volonté. Et agissez avec courage. Laissez-le vous inspirer. Dans Romains chapitre 1, verset 17, nous lisons encore, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Comprenez-vous cela? Si vous êtes juste aux yeux de Dieu, vous devez vivre par la foi. Et la foi est lorsque vous croyez ce que Dieu vous dit. C'est aussi simple que cela. Nous trouvons dans la Bible de nombreux exemples pour y croire. Par exemple, dans les Actes chapitre 10, nous lisons ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul et Silas chantaient de longues prières en prison. Laissez-moi le citer. Actes 10, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Voyez-vous, ils étaient témoins, en quelque sorte, de la véritable religion du Christ. Tout à coup, il se fit un grand tremblement et ensuite, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Imaginez cela. Donc, les prisonniers maintenant sont libres. Ils peuvent tous s'en aller. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes ouvertes, de la prison ouverte, il tira sur son épée. Il pensait que tous allaient se sauver, y compris les apôtres, y compris les disciples du Christ. Mais pas Paul. Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici, tous. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de l'apôtre Paul et de Silas. Voyez-vous, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. En tant que prisonniers, ces gens avaient le droit de s'en aller. Mais Paul et Silas sont restés. Alors, verset 30, il les fait sortir et il dit, c'est le geôlier qui parle, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Tout d'un coup, les yeux de cet homme se sont ouverts. Il voyait maintenant qu'il y a une puissance forte, l'éternel Dieu, et que c'est ce Dieu qui peut sauver. Donc, il pose la question, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est ce membre de phrase, voyez-vous, que les gens prennent en disant que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire et on sera sauvé. Mais lisez le reste des versets, lisez le reste de l'histoire. Verset 32, « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Voyez-vous, c'est pas là, l'histoire ne se termine pas là. Ils ont dit, lis, écoute, étudie la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Ensuite, verset 33, il les prit avec lui à cette heure même, la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt, il fut baptisé. Mais vous, la Bible ne donne pas ici tout ce qui s'est passé. La Bible vous donne des versets forts. La Bible vous dit ce qui s'est passé en bref. La Bible vous dit ce qui s'est passé en bref. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens, parmi ceux qui lisent la Bible, concluent, voyez-vous, la Bible dit clairement, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de croire au Seigneur et vous serez sauvés. Si c'était le cas, la Bible se contredirait. Pourquoi ? Parce que je peux vous montrer des dizaines de versets dans la Bible où Dieu déclare ouvertement que pour vraiment être sauvé, il faut obéir à Dieu. Par exemple, 2 Timothée 2, verset 10. Et je cite, « Le solide fondement de Dieu reste debout. » Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, notez-le, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que signifie iniquité? Iniquité signifie péché. Donc, il est très clair dans ces versets que si vous voulez vraiment croire en Dieu, être sauvé, vous devez vous éloigner de l'iniquité, c'est-à-dire du péché. Vous ne devez pas isoler un verset quelconque de son contexte pour arriver à une conclusion sans fondement. Il faut toujours lire les versets bibliques dans leur contexte. Un verset quelconque ne peut pas, ne doit pas être tiré hors de son contexte pour en tirer une conclusion. Le péché est la transgression des lois divines. Ça, c'est la base même de la vérité. Si nous sommes candidats au salut, nous devons cesser de pécher et nous faire baptiser afin de recevoir le Saint-Esprit que Dieu nous donne. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne la force de lutter contre le péché. C'est aussi simple que cela. C'est ici où beaucoup de gens, de prétendus chrétiens, se laissent égarer. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous observons les commandements, pas du tout. Mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la puissance qui nous permet de continuer à vivre dans l'obéissance aux commandements divins. Ensuite, si nous persévérons, je dis bien, si nous persévérons jusqu'à la fin, alors nous serons sauvés. C'est ce que le Christ a dit. Notons encore ce que l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, là, c'est clair. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Autrement dit, que nous avons connu Dieu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. C'est clair, non? La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit, là encore, tâchez de comprendre, tâchez de voir, tâchez d'entendre, ces vérités essentielles. Celui qui dit qu'il croit en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Comment le Christ a-t-il marché sur cette terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il réagi lorsque les gens l'ont persécuté? L'un des simples, je dirais, commandements, l'une des simples lois, si vous voulez, qui existe dans la nature, c'est la cause et effet. Autrement dit, vous brisez une loi, vous en subissez les conséquences. La loi s'applique à tout instant, à toute chose. Et lorsque une loi, y compris les commandements divins, sont brisés, automatiquement vous en souffrez, je répète, les conséquences. Lorsqu'on parle d'amour, on doit savoir que le véritable amour repose toujours sur le service que l'on rend, et non pas sur ce que nous recevons, sur le bien que l'on fait. Le véritable amour nous permet de jouir de la vie. J'ai souvent dit, et je répète, l'explication que l'apôtre Paul donne du véritable amour se trouve dans le chapitre 11 de sa première épître. Parce que là, Paul parle d'une façon tout à fait claire en ce qui concerne ce qui va se passer, ce qui se passe, et comment vraiment exprimer le véritable amour. Les hommes ne connaissent pas le véritable amour. Ils n'ont jamais su, ils ne seront jamais en main d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir, de pénétrer dans l'Esprit de Dieu. Alors, je cite 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7. Parfois, la Bible parle de charité. Ce sont des mots français qu'il faut comprendre dans le contexte. Le véritable amour est synonyme du mot charité. Donc, lorsque ici, c'est ce que j'ai ici, la version Louis Sagon, la charité, prenez-le, entendez-le et comprenez-le, il s'agit de l'amour pur. Alors, la charité est patiente, voyez-vous. Et il n'y a pas d'impatience. Vous attendez jusqu'à ce que vous puissiez voir les fruits que produit la patience. Elle est pleine de bonté, la charité. La charité n'est point envieuse. Ah, ça c'est bon. La plupart du temps, nous les hommes, nous sommes envieux. Non, si vous avez le véritable amour, vous n'êtes pas envieux. Ne se vante point. Regardez voir ça. Mais les hommes se vantent. Nous sommes tous victimes de la vanité. La véritable charité, le véritable amour n'est point envieux, n'est point vain. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Voilà, vous n'avez qu'à prendre votre temps, étudier cela, réfléchir à cela, et vous saurez ce que c'est vraiment le véritable amour. Nous les hommes, nous sommes pleins de vanité, alors que le véritable amour ne s'enfle pas d'orgueil. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Et c'est ainsi que vous comprenez ce que c'est que l'amour, l'amour véritable. La charité, le véritable amour, ne se réjouit point de l'injustice. Alors que nous, les hommes, nous nous réjouissons de l'injustice, pour autant que ça nous concerne. Mais la charité se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Écoutez voir ça. Elle excuse tout. Elle croit tout, tout ce que Dieu dit. Elle espère tout, tout ce que Dieu promet. Elle supporte tout. Nous trouvons dans la Bible, dans la traduction française, les mots péché et iniquité. Péché et iniquité sont synonymes, c'est-à-dire expriment les mêmes événements, les mêmes choses. Ce sont des synonymes dans le sens que ils signifient transgresser les lois que Dieu a instituées pour notre bien. Les lois divines expriment l'amour de Dieu. Ayez ça en tête. L'amour de Dieu à notre égard. Les lois divines ne mettent pas un frein à notre liberté. Voyez-vous, là encore, les gens ne connaissent pas la signification du mot « liberté ». C'est quoi la liberté? Je continue. La liberté vous empêche seulement de transgresser les lois divines, d'avoir le droit de transgresser, mais un malheur, des souffrances, des sentiments charnels causent des cas où votre liberté ne sert à rien. Autrement dit, voyez-vous, si vous abusez de votre liberté, vous ne connaissez pas les bonheurs, les sentiments de joie que produit justement, que produise justement la liberté. Une fois que vous commencez à comprendre cette vérité, élémentaire, je dirais, vous comprendrez jusqu'à quel point Dieu est amour, jusqu'à quel point nous bénéficions et apprécions tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il va encore faire pour nous. Je répète, la liberté se limite à tout ce que les lois permettent. C'est ça la véritable liberté. Dans Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14, nous lisons, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Maintenant, c'est Paul qui parle. « Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Alors, mes amis, je vous pose la question. Pourquoi sommes-nous devenus lents à comprendre? Nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi serions-nous lents à comprendre? Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Parce que nous sommes encore égoïstes. Parce que nous cherchons encore à faire ce qui est juste à nos yeux. Non, laissez Dieu agir. Ce matin encore, je parlais à quelqu'un. Et quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui n'était pas, à mon avis, plaisant. J'ai dit, écoutez, laissez Dieu agir. Dieu comprend, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu agira en son temps, faites-lui confiance. Ça, c'est la liberté. Je continue. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Autrement dit, Paul parle ici, peut-être vous êtes dans l'Église depuis 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ici, il parle à des gens qui ont été dans l'Église ou bien qui ont eu le Saint-Esprit depuis assez longtemps. Il dit, vous devriez être maître. Vous avez encore beaucoup besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. Et ça, c'est triste. J'en connais beaucoup. Des gens qui sont dans l'Église depuis longtemps, et pourtant, ils agissent, ils réagissent comme s'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ne faites pas ça. Mes frères et mes sœurs, mettez-vous plus souvent à genoux. Parlez à Dieu plus souvent que vous le faites. Comportez-vous à l'égard de votre prochain comme Dieu se comporte à son égard. Et Paul continue. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles, c'est-à-dire l'alphabet, pour ainsi dire, de la Bible. Vous en êtes encore à avoir besoin du lait et non pas de nourriture solide. Et c'est triste. Je connais des gens, des amis, qui sont dans l'Église depuis longtemps et ils sont toujours encore au point de départ, alors qu'ils pouvaient avoir la nourriture solide en ce qui concerne la vérité. Ils sont encore au lait, comme un enfant. Or, verset 13, Hébreux 5, « Or, dit-il, quiconque est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il n'a rien de mal à être enfant, mais soyons enfants alors que nous devons être enfants, là où nous devons être enfants. » Mais soyons des gens mûrs lorsque nous devons être mûrs. Et lorsqu'il s'agit de la véritable religion, c'est-à-dire des enseignements de Dieu dans la Bible, soyons des hommes mûrs. Verset 14, voyez-vous, là, Paul explique. Verset 14, mais la nourriture solide, autrement dit, on doit pouvoir digérer, est pour les hommes fait. Pour ceux dans le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je répète, mes frères et mes sœurs, cette distinction, cette détermination, cette précision doit toujours venir de la parole de Dieu. Ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est bon est toujours défini par la Bible. Voilà votre jugement. Voilà votre degré de compréhension. Voilà pourquoi ces versets bibliques s'appliquent principalement à ceux qui sont convertis, à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, à nous qui sommes dans l'Église de Dieu, car nous avons reçu le Saint-Esprit au moment de notre baptême, après nous être repentis de nos péchés. Et aussi longtemps que nous sommes dans la loi et que nous suivons la loi divine que Dieu a prescrite pour notre bien, aussi longtemps que nous agissons ainsi, nous serons bénis de Dieu. Ce faisant, nous devenons enfants de Dieu seulement, mais mûrs en ce qui concerne l'application des lois divines. Voyez-vous, nous sommes engendrés de Dieu au moment de notre baptême, après notre repentir. Engendrés seulement, nous ne serons pas nés de nouveau jusqu'à la résurrection des morts. Ce sont des vérités simples, de base, qui sont clairement expliquées dans la Bible. Donc, lisez la Bible. Si vous avez des questions, posez-les à nous, écrivez-nous. Nous sommes ici, en tant que membres de l'Église de Dieu, à répondre à vos questions, à préciser ce que vous ne comprenez pas. Ne nous croyez pas, croyez à la Bible, car la Bible est la parole de Dieu. Vous qui êtes membre de l'Église et qui m'entendez en ce moment, vous savez ce que je dis, vous connaissez ces choses. Par exemple, prenez l'exemple des fêtes de l'Éternel. Si, oui, absolument oui, la Bible parle de l'Éternel. La Bible parle des fêtes de l'Éternel. Et il y a des fêtes de l'Éternel que nous, en tant que chrétiens, si nous sommes mûrs d'entendement, nous devons célébrer. Mais combien d'entre les chrétiens aujourd'hui, de par le monde, connaissent les fêtes de l'Éternel? Et si vous leur montrez, ils diront, mais ça c'est de l'Ancien Testament. Mais quelle différence cela fait-il? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent des fêtes de l'Éternel. Et l'Ancien Testament précise même la façon de célébrer les fêtes. Car les fêtes vraiment nous montrent ce que c'est que le plan divin sur cette terre. Voilà pourquoi, je répète, si vous êtes vraiment chrétien, vous lirez les fêtes de l'Éternel dans Lévitique 23. Vous verrez comment il faut les observer et la façon dont vraiment nous jouir. Lorsqu'on parle du plan divin, vous ne pouvez pas comprendre le plan divin à moins que vous puissiez écouter chaque fête de l'Éternel à son propre temps et en même temps comprendre l'intention de Dieu en nous demandant, pour notre bien, de célébrer les fêtes de l'Éternel. Donc, je dis que si vous comprenez vraiment les fêtes de l'Éternel, vous comprendrez ce que je vous dis aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi Dieu a dit, et je répète, que nous devons nous tous célébrer les fêtes de l'Éternel en leur temps, et en même temps, la façon dont Dieu nous dit de les célébrer. Voyez ce qu'il nous promet à nous tous, c'est nous qui sommes ses enfants engendrés, dans Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 9. Tâchez d'écouter, tâchez de comprendre. Verset 5, Hébreux 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde. Donc, voyez-vous, automatiquement, nous savons d'abord qu'il y a des anges et que Dieu a fait quelque chose et que ce n'est pas à ces anges que Dieu a soumis le monde à venir. Parce qu'il y a un monde à venir. Ce monde dont nous vivons n'est pas le seul monde. C'est un monde passager. Mais le monde à venir, ça sera là où nous serons avec Dieu. Nous aurons la vie éternelle avec Dieu si nous y entrons. Et Paul dit, le monde à venir dont nous parlons. La Bible parle du monde à venir. Verset 6, or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Écoutez bien, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que l'homme? Que sommes-nous? Qui êtes-vous? Êtes-vous riche? Êtes-vous grand? Êtes-vous beau? Avez-vous beaucoup de succès? Mais qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Que le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Nous, les hommes, sur cette terre, Dieu nous a donné la puissance, certes, sur le reste de la création. Dieu nous donne le pouvoir sur cette création physique, mais nous devons vraiment comprendre comment la diriger, comment faire notre part. Laisse-le. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'amour. On parle ici en principe et de l'humanité et du Christ lorsqu'il était sur cette terre. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Maintenant, il est question et du Christ et de l'homme en ce bas monde. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et c'est vrai. Regardez voir, nous pouvons dominer les animaux, nous pouvons maîtriser beaucoup de choses, faire des inventions fantastiques, d'accord? Mais tout ça, ce n'est rien à comparer au monde à venir. Donc, toutes choses n'ont pas encore été soumises ici à nous, n'étaient pas soumises au Christ lorsqu'il était sur cette terre. Alors, je répète verset 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. » Ici, on parle du Christ, naturellement. « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Voyez-vous, on parle et en même temps du Christ sur cette terre, et en même temps de l'homme qui a pris, je dirais, les responsabilités d'être Christ, pour ainsi dire, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, maintenant on parle clairement de Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Ça sera lorsque le Christ reviendra sur cette terre, à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. Voyez-vous, le Christ n'a pas hésité à mourir. Le Christ n'a pas eu peur de mourir. Le Christ a accepté la mort, les souffrances, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon. Je parlerai de la bonté de Dieu un de ces jours. Dieu est bon, Dieu veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais pour y arriver, nous devons absolument nous soumettre à sa loi, à ses commandements, respecter sa volonté et faire notre mieux pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette force. C'est cet esprit qui nous donne le désir de comprendre et qui peut comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit il y a quelques instants que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas vraiment équilibré. Je sais, c'est un peu fort, mais c'est ce que dit Dieu. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprenez la Bible d'une façon différente. Les versets bibliques vous semblent réels. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi, je le répète, si vous connaissez Dieu et ses commandements, et si vous les mettez en pratique, ne vous laissez pas, et ne vous laissez jamais, je dirais, dirigés par des doutes. N'ayez pas de doutes. Satan voudrait faire tout ce qu'il peut pour que vous ayez des doutes dans votre esprit. Mais Dieu ne veut pas que vous ayez des doutes. Donc, faites ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous donne. Et il est facile parce que Dieu vous donne la force de lutter contre Satan. Satan ne peut absolument rien faire sans la permission divine. Alors, suivez la voie divine. Ne suivez pas la voie de la majorité. La voie de la majorité qui cherche une raison dans tout ce qui se passe pour douter de Dieu. Alors que la foi de la voie divine, dans tout ce que vous faites, même si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, la voie divine prouve que Dieu est bon, que Dieu est juste, et que dans tout ce que vous faites, Dieu sera toujours votre partenaire, votre ami, votre sauveur. Les gens ne comprennent pas cela. Satan voudrait vous mentir. Satan voudrait vous faire croire que Dieu fait exception de personne. Non. De telles idées, ou de tels mensonges, sont produits, je répète, par Satan le diable. ces sentiments-là créent en nous des doutes. Ils nous font croire que Dieu n'est pas bon, n'est pas juste. Alors que Dieu, à travers la Bible, je répète, et je répéterai page après page, que ce soit Ancien Testament ou dans le Nouveau, Dieu vous promet la vie éternelle et Dieu vous dit comment arriver au but. L'éternel Dieu ne fait pas distinction de personne. Non. Il ne prend pas de décision contre qui que ce soit. Dieu nous aide à comprendre d'abord. La vérité divine, c'est que c'est nous-mêmes qui nous infligeons nos punitions parce que nous transgressons la loi de cause à effet. C'est aussi simple que cela. Et je répète, Dieu ne fait pas distinction de personne. À ses yeux, nous sommes tous égaux, mais il faut que nous fassions notre part. Si vous ne faites pas votre part, dans ce cas-là, la bonté divine n'est pas visible en ce qui vous concerne. Et vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu agit ainsi. Ayez toujours en tête, la désobéissance cause vos malheurs. Et oui, c'est la désobéissance aux lois divines qui cause votre chute. Si nous avons foi en Dieu, si nous aimons Dieu, si nous savons que Dieu nous a créés pour que nous puissions arriver au but et qu'il nous donne la force, pourquoi alors douter de Dieu? Laissez-moi vous citer encore Hébreux chapitre 12, versets 4 à 11. Hébreux 12, 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, nous les hommes, en luttant contre le péché. Voyez-vous, on parle du péché. Le péché qui est la transgression des lois divines. On n'a pas encore résisté à mourir comme le Christ est mort. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et Dieu a dit, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. » Écoutez voir ça. « Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsque il te reprend. » La plupart d'entre nous, souvent, lorsque nous n'avons pas l'assurance devant nous que Dieu nous aide, que Dieu est présent dans la situation présente, nous doutons de Dieu. Non. Ne doutez pas de Dieu. C'est à ce moment-là, justement, où nous devons avoir le courage de dire, « Dieu, je sais que tu m'aimes. » Parce que c'est marqué au verset 16, au verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour son fils, ou pour ses fils. » Supporter le châtiment, là encore, écoutez bien. C'est Dieu qui parle. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc, comme nous les hommes, en ce bon monde, nous châtions nos enfants, de même, nous châtions pour notre bien. Dieu vous traite, car quel est le fils, ajoute Paul, qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, voyez-vous, tous, nous avons tous part, mais ce sont des châtiments qui nous sont imposés pour notre bien. Il dit, si vous êtes exempt du châtiment, attends, tous ont part, auquel tous ont part, vous êtes des enfants illégitimes, non des fils. D'ailleurs, dit-il au verset 9, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, voyez-vous, on peut comprendre ça de deux façons, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, c'est-à-dire Dieu le Père, pour avoir la vie éternelle. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Il faut mettre les choses en place et toujours savoir que Dieu nous aime, Dieu nous châtie, et que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Nos pères nous châtiaient, verset 10, pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Comprenez-vous cela? Dieu nous châtie pour que nous puissions un jour parvenir à la vie éternelle. C'est ça. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord, verset 11, un sujet de tristesse et non de joie, mais Il produit plus tard, pour tous ceux qui ont ainsi exercé, un fruit paisible de justice. Je ne sais pas s'il faut que je continue, mais je pense que oui, parce que ça vaut la peine. Il explique, Paul explique clairement ce qu'est le but de la vie, comment nous pouvons y arriver, et si nous sommes parfois châtiés par Dieu, c'est pour notre bien. Verset 12. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est une façon de parler. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt raffermisse, on se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Voyez-vous, ici, entre toutes ces instructions, il y a une phrase qui est cachée, qui est extrêmement importante. Recherchez la paix avec tous. Est-ce le cas? Est-ce le cas avec vos amis, avec vos frères, même avec ceux qui ne vous respectent pas? Est-ce que vous recherchez la paix dans une discussion? Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà. Si vous êtes vraiment chrétien, vous devez faire de votre mieux pour que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume. Voilà encore un autre secret. L'amertume vous tue. L'amertume ruine votre avenir. Il n'y a qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, voilà où nous chutons. Voilà où nous ne sommes plus enfants de Dieu, pour ainsi dire. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu. Ensuite, Paul ajoute, « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. » Mais vous savez que plus tard, verset 17, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Autrement dit, il y a dans la vie un moment où peut-être votre repentir ne pourra pas avoir lieu. Agissez alors qu'il est encore temps. Agissez alors que Dieu est encore votre Père. Agissez alors que vous avez encore en vous le désir de plaire à Dieu. Nous savons ces choses. Nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous les mettons en pratique dans notre vie d'une façon générale. Mais lorsque les circonstances créent en nous des doutes, lorsque nous commençons à blâmer Dieu, et alors nous sommes sur le mauvais chemin. Nous ne voyons plus l'amour de Dieu, ni sa bonté. Nous commençons à raisonner comme tout le monde raisonne. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne permettons pas à l'amertume de ronger notre cœur. Nous succombons aux doutes et aux mensonges lorsque nous nous éloignons de Dieu. Je continue encore verset Hébreux 13, parce que je veux vraiment que vous compreniez cette vérité sublime. Hébreux 13, versets 5 à 9. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Regardez autour de vous. Tout ce que l'on fait, c'est pour l'argent. Tout ce que l'on fait pour travail, c'est pour gagner davantage, pour s'amuser davantage, pour l'argent. Et l'argent, évidemment, nous conduit vers le malheur, vers l'envie, vers la convoitise. Contentez-vous, dit Paul, de ce que vous avez. Voyez-vous, voilà encore une autre instruction facile, une autre instruction importante. Contentez-vous de ce que vous avez. Si quelqu'un d'autre a beaucoup plus que vous, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui le rend heureux. Soyez heureux, tâchez d'être heureux avec ce que vous avez. Ça, c'est le secret. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. » Regardez-moi cette phrase. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est que Dieu ne soit plus votre Dieu, qu'il vous abandonne. Et voilà comment Dieu vous promet ici, il dit, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Si vous avez ça en tant que garantie de la part de l'Éternel Dieu, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore? Dieu vous donne tout ici. Car en ce bas monde, la vie, c'est comme un brin d'herbe. Mais Dieu vous promet pour toute l'éternité, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc, dit-il avec assurance, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Regardez encore, voilà des phrases qui vous donnent la force d'aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que ce soit une phrase qui soit marquée sur votre front. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Écoutez, si vous comprenez cela, de quoi avez-vous peur? Vous dites, je ne craindrai rien. Voyez-vous, lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous savez que Dieu est avec vous, vous devez toujours savoir que Dieu ne ment pas. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, c'est-à-dire vos véritables maîtres qui vous disent la vérité selon la Bible. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Regardez voir les prophètes, comment ils sont morts, comment ils ont sacrifié leur vie pour proclamer l'Évangile. Regardez voir les apôtres, ils ont donné leur vie pour faire la volonté de Dieu. Ils ont souffert parce qu'ils nous ont donné un exemple pour que nous puissions, nous, suivre leur pas. Jésus-Christ est le même hier, encore une promesse hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Christ qui est venu il y a quelques 2000 ans. Ensuite, pour l'ajouter, verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Regardez voir toutes les doctrines qu'il y a de par le monde aujourd'hui. Ne vous laissez pas, dit-il, entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bien que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Lisez ça, lisez ces phrases. J'ai pris mon temps pour lire, mais lisez ces phrases, lisez ces versets, tâchez de comprendre ce que Dieu vous dit. Je vous ai parlé il y a quelques instants de la liberté. Je vous ai demandé, qu'est-ce que la liberté? C'est ici votre liberté. Voyez-vous, avez-vous jamais vraiment cherché à définir ce qu'est la vraie liberté? S'agit-il de quelque chose qui vous donne le droit de faire ce qui vous plaît? Pas du tout. Mais c'est ainsi que raisonnent beaucoup de gens. C'est qu'ainsi qu'ils comprennent ce qu'est le christianisme en tant que doctrine de Dieu. La liberté n'est pas le droit de vous permettre d'agir à votre guise. Au contraire, la définition, je répète, de la véritable liberté est de vous permettre de vivre selon ce que les lois permettent. Je l'ai dit ça et je le dirai et je le répéterai encore. Car c'est à la base même qu'il faut chercher les problèmes. En effet, votre liberté se limite à ce que les lois permettent. Méditez cela. Vivez en conséquence. Ne vous laissez jamais dominer par des doutes, quoi qu'il arrive. Soyez sans doute, soyez sans hésitation. Faites ce que Dieu vous dit. Faites ce que ses lois permettent. Une fois que vous êtes convaincu de cela, une fois que vous êtes convaincu de la bonté de Dieu, une fois que vous êtes convaincu que tout ce que je vous dis ici, c'est la vérité, que vous lisez vous-même dans la Bible, alors vous comprendrez ce qu'est la véritable liberté. Notez encore ce que l'apôtre Jacques déclare, et je cite, son épître chapitre 1, versets 22 à 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. » Alors, je répète, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a beaucoup de gens qui se bornent à l'écouter. Il y a beaucoup de gens qui limitent leur compréhension à seulement à leur propre raisonnement. Non, ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnement. Entendez-vous cette parole? Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, notez-le, si vous écoutez la parole et si vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes semblable, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Essayez de voir ça. Si vous êtes triste, allez vous voir dans un miroir. Le miroir vous montrera un visage triste. Si vous êtes souriant, le miroir vous montrera un visage souriant. De même ici, si vous êtes submergé par des idées pareilles, dans ce cas-là, faites ce que Jacques vous dit. Allez vous regarder dans un miroir. Qu'est-ce que vous voyez? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt ce qu'il était. C'est triste. Vous regardez, vous voyez voir ce qui se passe, et après vous êtes regardé dans le miroir, vous avez oublié ce que vous avez vu. Ne faites pas ça. Beaucoup de gens le font, mais ne faites pas ça. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, maintenant c'est le miroir, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se soumettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est ici, mes frères et mes sœurs, la base même du succès. Les lois divines ont été instituées pour nous permettre de vivre heureux, d'être heureux. Elles nous conduisent vers la véritable liberté. Elles dressent une barrière autour de nous pour empêcher ce qui est mal, ce qui est mauvais. Les lois divines nous permettent de comprendre la voie divine, de comprendre Dieu et de marcher avec lui main dans la main. C'est pourquoi vous devez lire la Bible chaque jour et la laisser vous guider. Croyez ce que Dieu vous dit dans la Bible et non pas ce que les hommes prétendent de par le monde. Ne vous laissez pas égarer par le mensonge ou par des doutes. Le Dieu suprême qui nous a créés, vous et moi, ce Dieu magnifique veut que nous puissions être un jour membres de sa famille. C'est une vérité que je répète presque avec chaque émission que je fais. Mais c'est la vérité, c'est l'espoir même de l'humanité. Ce Dieu tout-puissant veut que nous puissions être sauvés. Eh oui, être vraiment sauvés. C'est sa volonté, et il le peut. La différence, c'est que nous laissons nos doutes nous dominer. En effet, notre attitude, nos mauvaises pensées. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit encore, et je cite son épître, Éphésiens chapitre 3, un verset magnifique, vous savez, sans des paroles qui vous donnent tout le courage dont vous avez besoin. Tâchez d'écouter. Écoutez, je vous prie, de tout votre cœur, de toutes vos oreilles, et vraiment croyez. Si vous ne croyez à rien d'autre, sauf ce que je vous dis ici, ça vaut la peine. Notez-le. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Éphésiens 3, 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, notez-le, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, regardez voir, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est incroyable. De tout ce que nous demandons ou pensons, nous nous adressons à quelqu'un qui peut faire au-delà de tout cela. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Autrement dit, par ces deux versets, nous nous rendons à Dieu, nous reconnaissons que Dieu le Père peut tout faire, même au-delà de tout ce que nous pensons. nous souhaitons. Tous les prophètes de Dieu nous donnent cette assurance. Tous les prophètes de Dieu nous inspirent le courage. Tous les prophètes de Dieu nous donnent les instructions nécessaires pour pouvoir marcher main dans la main avec Dieu. Notez encore pour terminer ce que le prophète Jérémie écrit dans son livre, je cite, Jérémie 31, versets 33 à 34. Mais voici l'alliance que je fais avec la maison d'Israël. C'est Dieu qui parle. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, par le Saint-Esprit. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voyez-vous, c'est beau, c'est juste, c'est réel. Croyez à cela et non pas aux mensonges de Satan. Celui-ci, verset 34, n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront dans le royaume de Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, mes frères et mes sœurs, après avoir entendu cette promesse que Dieu nous donne, après avoir eu le courage d'obéir à Dieu, après avoir entendu parler de son promesse, comment pourriez-vous encore douter de Dieu, ce Dieu suprême qui est plein d'amour pour vous tous? Comment pourriez-vous oublier ses promesses? Dieu suprême veut que nous puissions être membres de sa famille éternelle. Faisons notre part, faisons notre devoir et soyons-en reconnaissants au Christ qui nous permet d'arriver au but.